Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre thème sur les activités et actions menées par les jeunes tout ce mois de mars, mois dédié aux femmes et aux jeunes filles pour célébrer les droits des femmes. Pour rappel, le thème national retenu cette année est leadership d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du Covid en RDC. Bienvenue dans le magazine des jeunes pour les jeunes avec les jeunes de Radio Okapi. Nous sommes à Bukavu, au sud Kivu, où Emmanuel Elameji a rencontré Modestine Sifa, une jeune femme vivant avec handicap. Modestine Sifa a réussi à faire les études universitaires et à se lancer dans l'entrepreneuriat féminin. Elle vient de créer sa propre entreprise dénommée Unga Wajama, qui veut dire pain au quotidien, spécialisée dans la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. Elle appelle les autres jeunes de devenir des créateurs d'emplois au lieu d'en être demandeurs. Écoutons-la.
Dans la protection de l'environnement, nous sommes dans la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. Dans la sécurité alimentaire, nous sommes dans l'élevage de poules, de chèvres et de pontes.
Quelles sont les principales activités de sécurité alimentaire?
Sécurité alimentaire, là, c'est l'élevage de poules. Mais en globalité, dans la sécurité alimentaire, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans l'élevage de lapins, mais aussi les cailles.
L'agriculture, c'est quoi? Quel produit?
Le maïs. Nous cultivons le maïs. Notre entreprise s'appelle Projet Ujama Asbel, qui veut dire Unga Wajama.
Comment tu as eu l'idée de vrai dans ce domaine-là?
À part être juriste en formation, nous avons vu qu'il y a la malnutrition qui s'observe pour nos populations. Et on s'est dit, bon, il fallait élever ces poules pour que la population trouve en abondance le poulet de chair. Et c'est là que nous sommes dit qu'il fallait qu'on élève pour qu'ils aient ça à un prix là trop abordable. Et à part ça, nous avons l'idée de créer de l'emploi. Parce que lorsque nous avons créé notre association, nous nous sommes dit qu'il serait mieux qu'on prenne certains jeunes pour qu'on les prenne, qu'ils aient au moins une occupation, une façon de créer de l'emploi.
En quoi ça profite depuis le temps que vous êtes dans ces domaines là-bas? Quels sont les avantages qu'il y a?
Les avantages qu'il y a, premièrement, le gens qui ont compris qu'il fallait qu'ils nous accompagnent en achetant nos produits. Là, c'est dans le cadre de l'élevage. Et pour la protection de l'environnement, il y a bon nombre de gens qui ont vu que ce serait mieux qu'on utilise le bois compressé et le briquet fait à base de bois pour ne pas couper des arbres. Et dans ce sens-là, nous avons eu l'idée de faire des sensibilisations en plantant d'autres arbres qui vont devoir remplacer les arbres déjà abattis. Et là, nous nous retrouvons être autonomes financièrement en tant que femmes et en tant que responsables d'une famille.
Donc, vous luttez contre la déforestation, vous fabriquez des briquettes, c'est-à-dire, c'est quoi?
Le briquet que nous fabriquons, ils sont venus remplacer le braise de bois. Quand on parle de braise, là, on voit qu'on a abattu des arbres pour qu'on fasse des braises. Mais nous avons dit qu'il fallait qu'on prenne les déchets végétaux pour qu'on les transforme en briquettes. On fait ce que nous appelons le briquet fait à base de bois, mais aussi nous avons du bois compressé. Donc ce bois-là, les gens de boulangerie peuvent les utiliser. Et pour le briquet, nos femmes de foyer les utilisent comme des braises.
Alors, nous sommes au mois de mars, mois des droits de la femme. Modestine, personne vivant avec handicap, quel message tu as pour ces mois?
Les messages que je peux passer, c'est d'appeler à toutes les femmes d'essayer. D'essayer, c'est de dire je fais ceci pour que j'ai cela. Une façon d'être autonome. Donc, il faudrait qu'on essaie avec le peu qu'on peut avoir pour avoir les grands qu'on rêve avoir. Surtout pour les femmes, filles qui ont vraiment un niveau d'études là, c'est à elles que je m'adresse principalement parce que elles savent que quand on a fini les études, on est là, on doit chercher le travail. Non. Nous tous, nous ne pouvons pas rester dans des bureaux. Nous tous, nous ne pouvons pas aller chercher de l'emploi. Mais nous tous, nous pouvons créer cet emploi-là. Si tu as l'idée, mets ton idée sur un papier et après, tu vas devoir le matérialiser. Tu vas créer de l'emploi. Une façon de diminuer aussi le chômage qui s'observe au niveau de nos jeunes. Donc, n'attendons pas qu'on aille seulement chercher de l'emploi. Le temps que tu passes pour aller chercher de l'emploi, tu peux le faire pour créer ta propre entreprise.
Des jeunes hommes aussi accompagnent les activités liées au mois de mars. C'est le cas de Prince Pungi, fondateur de Osare, une organisation sociale de soutien aux démunis. Sa fondation a mis au point le projet Femmes en danger, un plaidoyer pour la protection et la réhabilitation de la femme. Dans cet entretien avec Hervé Vauquat, il nous parle de ce projet et aussi des autres activités que sa fondation organise durant ce mois de mars.
Pour réaliser notre projet, le projet FED, nous avions prévu 3 mois d'activité. Le premier mois, c'est le mois de mars, ce mois-ci. Nous avions déjà réalisé une activité. Et l'autre activité, c'est ce samedi 20 mars. C'est une conférence que nous allons organiser. Et après la conférence, toujours au mois de mars, le 27 mars, c'est la projection du court-métrage que nous avions réalisé. Voilà. Et au mois d'avril, c'est le mois réservé à une tournée culturelle. Donc nous aurons des concerts, nous aurons des festivals, nous aurons aussi des matchs de football. Donc durant un mois. Et ensuite, le mois de mai, c'est un mois réservé à la tournée scientifique. Donc voilà, c'est comme ça que nous avions scindé. Et le mois de mai aussi aura 4 activités.
Ce qui a fait en sorte que nous puissions créer ce projet, c'est dû à la situation sécuritaire de l'Est du pays. C'est la source même de notre inspiration. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait prévoir cela. Parce que aujourd'hui c'est à l'Est, demain ça sera à l'Ouest, et puis au Nord, et puis au Sud, et puis au Centre. Et non seulement ça, tout ce qui se passe à l'Est concerne même les Kinois, parce que nous opérons à Kinshasa. Alors, ce qui se passe à l'Est influence même les jeunes, les femmes kinoises. Ça influence plus négative. Pourquoi ? Parce que ça devient une coutume. Donc, on sait qu'il y a des tueries, etc. Alors, au-delà de ça, parlant des femmes en danger, cela ne se cadre pas seulement, pas uniquement, aux violences physiques. Nous avions décrit, au fait, 3 types de violences, 3 types de dimensions, pas de violences, mais des dimensions qui constituent des conséquences. Donc, nous avons la dimension psychologique, la dimension physique et la dimension culturelle. Et ce que nous comprenons pas, c'est que, du point de vue psychologique, ce sont des réactions, en fait. Ce sont ce que nous voyons, c'est ce que nous adaptons dans notre cerveau, qui par essence, a une origine physique. Mais cela quitte le physique pour devenir psychologique. Vous allez comprendre que le physique, de fois, peut respirer, mais la psychologie continue de souffrir. Alors, du point de vue culturel, c'est le changement complet, voire même une modification anthropologique à Kinshasa, du point de vue habillement. Et la femme perd, je peux dire, plus ou moins 80% sa féminité africaine. Donc les valeurs féminines africaines disparaissent et on adopte des valeurs étrangères. C'est à partir de là que nous avons créé au fait le projet FED. Et le projet FED vise au fait à restituer, à reconstruire l'image de la femme d'abord, ensuite reconstruire sa mentalité et sa conscience. Elle doit comprendre qui elle est, qu'est-ce qu'elle doit faire demain et qu'est-ce qu'elle doit faire pour sa société ou sa communauté. Ceci est très important. S'il n'y a pas de femmes intègres, éduquées, consciencieuses, je pense que notre développement est mis en danger. C'est pourquoi il y a même l'apparition des Kulouna. Pourquoi ? Parce que la majorité de leurs mères, de leurs mamans, n'ont pas reçu une bonne éducation. Et c'est ça le problème. C'est un danger qui guette ces mères. Et la conséquence revient aux enfants. Et si ce sont des filles, vu que nous traitons le cas des filles et des femmes, c'est encore plus grave. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux qui continue. Voilà, un cercle vicieux de problèmes, etc. Et nous pensons que nous devons arrêter cela par l'éducation de la femme. On doit éduquer la femme.
Par rapport à ce que j'ai compris en ce qui concerne le thème retenu pour cette année, je pense que la femme est appelée à se prendre en charge. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement être indépendante, mais essayer de comprendre à quel point elle est très importante dans la société. Et en tant que leader, elle peut, ou soit elle va, diriger même la société. Ce qui rejoint d'ailleurs aussi, ou soit si je dois dire l'inverse, ce que nous aussi nous rejoindrons cela avec notre projet pour essayer d'élever la femme à un rang pour permettre à ce que le pays puisse développer. Dans la société numérique, il est très important de comprendre que ce n'est pas l'affaire des hommes, mais il faudrait aussi investir sur cela. Je pense bien qu'avec la femme qui a fabriqué le robot roulage, et je pense dans ce sens-là qu'il faudrait aussi pistonner certaines femmes. C'est-à-dire que révolutionner les technologies de l'information, de la communication, les technologies numériques, toutes ces nouvelles technologies qui emmènent à ce que le numérique puisse prendre de l'ampleur et la participation, voire même de la femme. Voilà. À l'ère du Covid-19, si je dois séparer d'abord les questions, parler du Covid, personnellement, j'ai remarqué que la femme, j'ai remarqué que la femme a pu développer la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire une notion qui a permis à ce qu'elle puisse développer même sa capacité. Et la plupart de masques que nous utilisons même dans la rue, que nous achetons, ce sont les femmes qui les produisent. Et dans ce sens-là, c'est prendre d'abord des responsabilités compte tenu des situations auxquelles traverse le pays. Et je pense bien que la Covid-19 n'est pas la seule situation dans le pays, mais il y en a beaucoup. Donc la femme doit être capable, dans sa société, de dénicher des erreurs, de dénicher des fautes, de dénicher les mauvaises choses, si je dois dire ça, pour ensuite avoir des solutions, donc des problèmes pour trouver des solutions. Voilà.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54. Ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Merci de suivre le magazine 100% Jeunes sur Radio Capi. Nous poursuivons avec notre thème sur les activités et actions des jeunes durant ce mois de mars. Et pour ce faire, je reçois Vanessa Kaliza. Elle est fondatrice de Afia Kwaote. Vanessa, bonjour. Parlez-nous un peu de votre mutuelle Afia Kwaote. De quoi il s'agit exactement?
Bon, la mutuelle de santé, c'est une association sans but lucratif, justement, parce que le Congo veut que les mutuelles se présentent sous cette forme-là. Mmh. Mais nous sommes là pour répondre à un besoin, celui de faciliter l'accès aux soins à toutes les catégories de la population. Et on met un accent sur la santé maternelle, sur la prise en charge et la protection l'insertion sociale des personnes vulnérables, mmh. aussi la prise en charge des entreprises et des organisations. Mmh. J'ai monté la mutuelle de santé en septembre 2019 à Calémie. L'idée est venue déjà quand j'avais 25 ans. C'est pas, ça s'est réalisé un peu plus tard, mais parce que je voulais faire des formations.
Ans, à 25 ans, vous ne faisiez pas autre chose ?
Oui, j'étais entrepreneur déjà.
D'accord, mmh. dans quoi ?
J'étais dans la vente et dans la commercialisation de tout ce qui était vêtements pour femmes enceintes et mmh. enfants.
Ah, j'avais femmes aussi, enceintes, enfants, on voit bien le lien.
Oui, et j'avais également une structure pour la vente mobilier de bureau et matériel informatique.
Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette mutuelle de santé ?
C'est la situation auquel on est confronté tous les jours. Vous mmh. savez, je suis pas que sur Kinshasa. Donc, on a déjà commencé à Calémie. Vous entendez bien que j'ai parcouru un peu le Congo. Mmh. Et c'est la difficulté qu'a aujourd'hui le Congolais d'accéder aux soins de santé. Ça mmh. coûte cher. On n'a pas toujours les moyens. Et la maladie ne nous provient pas. Donc, c'était pour moi une façon de contribuer et de combattre ce taux de mortalité qui est en train de monter en puissance. Mmh. Et combattre aussi l'automédication. Donc je me dis que la personne qui est adhérent à la mutuelle, mmh. en payant sa contribution, peut aujourd'hui avoir accès aux consultations, aux examens de laboratoire et à la pharmacie.
C'est pas venu d'une expérience personnelle ?
Oui, aussi.
Racontez-nous un peu.
Très triste, malheureusement. J'ai perdu, si je peux me le permettre, le fils d'une femme de ménage à moi. Mmh. à Calémie, parce que entre minuit et 4 heures, j'ai mon téléphone éteint. Elle était, son enfant était malade, était en train de perdre du sang. Elle arrivait à l'hôpital et malheureusement, elle n'avait pas d'argent et l'hôpital avait refusé de prendre en charge son enfant. Et à 3h40, l'enfant était mort. Donc le temps que je rallume mon téléphone, c'était pas pour que j'intervienne, mais c'était pour dire mes condoléances, malheureusement. Et ça m'a révoltée. Je me suis dit, si aujourd'hui, moi, j'expérimente ce cas-là, donc il y en a beaucoup qui meurent faute d'argent, mmh. donc il fallait intervenir, il fallait faire quelque chose rapidement.
Alors donc partie de cette expérience, vous avez monté cette mutuelle. Comment on fait pour monter une mutuelle de santé en RDC ? Est-ce que c'est facile ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
Les difficultés que je rencontre jusqu'à ce jour, même après
l'avoir
monté.
Vous n'avez pas encore tout réglé, d'accord.
Oui.
Dites-nous tout.
À Kinshasa spécialement, on a eu des difficultés parce qu'il fallait des grosses sommes mmh. à verser auprès des structures de santé. Mmh. Donc aujourd'hui, on n'a pas une loi qui établit les prix, si je dois l'appeler comme ça, des consultations ou des examens de laboratoire. Chaque structure sanitaire vit avec sa grille tarifaire et chaque structure de santé exige une caution. Mmh. Et cette caution varie entre 500 et 4000 dollars. Wow. Donc là, comprenez qu'on a 57 structures et combien mmh. ça nous a coûté. Il y avait aussi un problème d'ordre administratif. Mmh. C'était hyper difficile d'obtenir tous les papiers. Mmh. Donc on a dû commencer en trichant. Donc pas entre guillemets parce que j'avais à peine mon F92. Mais d'accord. il fallait l'agrément qui a duré un an et six mois avant de l'avoir.
Oui, il fallait donc commencer des activités en attendant que la procédure administrative puisse aboutir.
Voilà, exactement. C'est pas triché.
entre guillemets,
on a toujours préféré de lancer une activité en ayant tous les papiers. Mmh. Et ça nous a bloqué parce qu'aucun partenaire ne pouvait nous accompagner parce qu'on n'avait pas l'agrément. Mmh. Avec le F92 seulement, cela ne suffisait pas. Mais bon...
Cela ne vous a pas empêché d'avancer et de finaliser les démarches.
Exactement. Et le plus gros problème qu'on rencontre, c'est le problème de la sensibilisation. Mmh. Vous entendez avec moi que les mutuelles ne sont pas connues à Kinshasa, même si elles existent, et que les personnes qui y vivent n'ont pas cette mentalité de cotiser en amont pour pouvoir avoir des soins juste après. Donc, on a un problème de budget. Parce que sensibiliser, faire le porte-à-porte, passer à la télé et tout, c'est de l'argent. Mmh. Et on n'a pas d'accompagnement là-dessus. Pourtant, la loi prévoit des subventions pour les mutuelles de santé du côté administratif et un appui sur les sensibilisations. Mmh. Voilà un peu, en gros, les difficultés.
Et donc, vous, si je comprends très bien, votre rôle, c'est de demander à tout le monde, venez faire un dépôt chez moi. Mmh. Et grâce à ce dépôt-là, mmh. moi, je vous garantis l'accès aux soins de santé de base.
Mmh. Justement, parce que le principe de la mutualisation, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on soit plus nombreux, parce que c'est les plus forts qui soutiennent le plus faible. mmh. Donc plus on est nombreux, plus on est fort. Mmh. Et là, on est à peine 1300, vous comprendrez.
Non, mais que, c'est pas mal ça, ouais, déjà.
Oui, c'est pas mal. Et normalement, on a l'objectif pour 2021, c'est d'atteindre les 10 000.
Mmh. Donc, faut avoir la foi.
Il faut avoir la foi et la force. Hein. Mmh. Il faut être accompagné en même temps. Mmh. Donc, oui, c'est pas facile.
Mmh. Et donc, ce qui fait que de l'autre côté, les gens ne comprennent vraiment pas trop bien votre rôle quelque part, ce que vous faites, notamment à cause de ce problème de moyens de communication.
Moyens de communication et moyens financiers également. Mmh. Parce que on va pas parler de mutuelle de santé sans cotisation et on ne parlera pas de cotisation sans moyens financiers. Les personnes qui vivent à Kinshasa n'ont pas tous les moyens pour accéder aux soins, même s'ils veulent bien. Mmh. Parce qu'il arrive de fois, on fait des descentes à Maluku, à Kinkole, et on sent bien combien les gens sont en train de souffrir. Mmh. Et mettre de côté, je pense que la santé vient en cinquième priorité dans un foyer. Mettre de côté de l'argent, sachant qu'on va ou ne pas tomber malade, c'est aussi quelque chose de compliqué. C'est même pour ça que nous frappons aux portes pour, par exemple, la campagne qu'on a lancée depuis le mois de juin des orphelins. Il y en a 1500 qui sont dans plus de 42 orphelinats répartis dans la ville de Kinshasa qui, d'accord, aujourd'hui, bénéficient...
42 orphelinats.
42 orphelinats, mmh, avec 1500 enfants. Normalement, c'est 2020, mais on a écarté tous ceux qui ont au-delà de 18 ans. Donc, okay, on a gardé 1500 mineurs. Et leur cotisation, elle est de $30. On a commencé la campagne
par tête,
oui, et par an. Mmh. Donc avec $30, ces enfants seront sécurisés pendant un an et ils ont déjà, dans tous les cas, ils vont déjà se faire soigner. Il y en a qui se sont fait opérer, il y en a qui vont parce qu'ils ont la malaria, parce qu'ils sont faibles et tout ça. Donc, mmh, la mutuelle est vraiment là pour permettre à ces personnes de retrouver leur force. Parce que je vais du principe qu'on ne construit pas un pays avec des gens malades.
Nous allons poursuivre sur la thématique liée à la femme. Qu'est-ce que vous avez prévu ou qu'est-ce que vous avez pu organiser ou réaliser pour essayer de faire l'activiste, en tout cas, pour les droits de la femme?
Oui, femme et activiste.
La plus grande concernée.
Oui, ce mois-ci est dédié à l'information. Moi, j'ai appelé
comme ça. Vous étiez un peu dans tous les médias, quoi.
Voilà.
Notamment TV5.
Mais bien entendu.
Alors, on arrête l'interview Radio
Mais
Capi.
Non, mais Radio Capi est aussi grand que TV5. Et je suis honorée d'ailleurs d'être invitée. Mmh. Moi, personnellement, et la Mutuelle de Santé en général, on a dénommé ce mois d'information et de formation. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, on a un gros souci. C'est que les femmes ne sont pas toutes informées de leurs droits, mmh, et les informations ne sont pas adaptées au niveau, j'ai envie de dire, d'études ou pas, mmh, au niveau intellectuel de ces personnes-là.
Les différents types,
voilà,
quoi.
Mmh. Voilà. Donc nous, on a adapté le contenu, mmh, pour aller, par exemple, à Maluku. On ne va pas dire la même chose que...
Quelqu'un qui habite Gombe ou,
voilà,
à la campagne.
Vous voyez, mmh, c'est pas une discrimination, mais c'est une façon,
c'est une
de
réalité,
communiquer, une,
oui,
une réalité.
S'adapter à la réalité
et pour
de
atteindre
terrain,
la cible, mmh, justement. Donc on passe aussi dans toutes les chaînes télévisées possibles, comme, mmh, celle-ci, et radio d'ailleurs, mmh, pour pouvoir parler des droits des femmes, mmh, et pour pouvoir aussi éveiller ces femmes pour ne pas être... attentiste, on,
d'accord,
va dire.
Attentiste, c'est-à-dire,
bah, les femmes ne doivent pas attendre que tout leur soit servi sur un plateau d'or.
D'accord.
Il faudrait
qu'elles doivent se battre, qu'elles doivent
se battre,
prendre en main,
se former et pouvoir être compétitives face à l'emploi et à toutes les responsabilités à venir.
Au-delà de tout ça, vous avez fait des actions avec Sophie Badi,
oui,
des plateaux télé sur les chaînes locales, mm-hmm, et les chaînes internationales, comme je disais. Racontez-nous un peu tout ça.
C'était un échange. Oui. Il y avait Sophie Badi, Afia Mama également. Mm-hmm. Et c'était pour mettre en exergue toutes les activités que les femmes ont réalisées. Et on a relevé les points forts des femmes, la capacité de résilience qu'on a eue, ce qu'on devait faire, ce qu'on doit continuer à faire. Et notamment, on a parlé de l'information, mmh, sur les droits des femmes et la formation sur le numérique, parce, mmh, qu'il s'agit aussi du numérique, pour que les femmes puissent s'adapter aux nouveaux...
les nouveaux outils de,
voilà,
communication.
De communication.
On parlera des applications, les réseaux sociaux,
voilà,
pour les utiliser.
Exactement, parce qu'on avait fermé tous les bureaux et la seule façon de vendre ou de se faire connaître en ce moment-là, c'était l'Internet. Donc les femmes aujourd'hui, peu importe le milieu où ils se trouvent, doivent aujourd'hui être capable de d'avoir ces outils et de les utiliser correctement. Mmh.
Et justement, par rapport à cela, c'est lié à la thématique retenue en RDC. Hein. Mmh. Comment comprenez-vous d'ailleurs cette thématique retenue pour ce mois de mars, leadership, excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du Covid-19 en RDC?
Moi, en deux mots, ce que je retiens de cette phrase, c'est qu'aujourd'hui, nous devons, nous, femmes, devenir excellentes. Excellentes en se formant, excellentes en étant compétitives, comme je disais tout à l'heure. Pour une société égalitaire, donc j'entends que dans les 5 années prochaines, nous ne devons plus avoir de débat autour de la parité, parce que la parité doit et effectivement avoir atteint son apogée, donc sa réalisation complète. Et nous devons nous mettre à utiliser les outils qui sont importants pour la communication, pour se mettre à niveau.
Mmh. Et justement, vous mettre à niveau, vous, avec votre mutuelle de santé, je suppose que vous avez connu des difficultés pendant la période du Covid-19. Comment vous avez fait?
Ben, on a communiqué sur Internet. C'était notre allié.
Voilà.
C'était notre allié.
Rapidement, vous avez compris qu'il était important de basculer sur le digital, sur les outils numériques pour pouvoir communiquer avec la cible.
Exactement.
Racontez-nous un peu. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à ça?
Anecdote, non, mais j'ai une petite histoire.
Oui.
C'est que, enfin, on lançait la mutuelle alors que le président fermait les frontières et déclarait le confinement.
Ah, vous avez lancé la mutuelle à ce moment-là?
Oui,
donc, c'était chaud alors.
Nous avions dans le temps les bureaux à Gombe, donc l'accès était très difficile, mais les gens continuaient à demander l'accès aux soins. Donc, ce qu'on a fait, on a créé notre site internet. Mmh. On a créé des plaquettes et on a ouvert nos comptes Facebook, Instagram et Twitter et on communiquait là-dessus. Les personnes qui nous ont connus avant le déconfinement nous ont connus sur Internet et on a juste eu du mal à faire le paiement en ligne parce qu'apparemment la réglementation ne permet pas. Bon, bref, c'était des très longues histoires.
Ok.
Et on a pu tenir un an sans ouvrir les portes, effectivement, de nos bureaux. Ça existait, mais personne n'y allait, personne n'y arrivait. Et on a décidé après de déménager pour pouvoir installer les mutuelles, là où tout le monde pouvait accéder sans avoir besoin de présenter une carte.
Et évidemment, les réseaux sociaux sont devenus vos premiers bureaux dématérialisés. Où vous avez continué à communiquer sur les activités de votre mutuelle de santé.
Exactement.
Est-ce que les gens venaient également se renseigner sur les réseaux sociaux?
Oui, j'étais d'ailleurs très étonnée que les gens utilisent plus des mails que...
Ah oui?
Oui, parce que sur notre site internet, vous avez la possibilité de faire des demandes ou de remarques par mail. Mmh. Et on a reçu, hier on était en train de faire l'évaluation, c'était plus de 3200 mails. Okay. On voyait à partir du site internet, sans compter les messages inbox et les interactions sur...
C'est énorme quand même.
Oui, c'est énorme.
Ce qui veut dire qu'effectivement, les outils digitaux sont très importants pour vous voir les activités des femmes.
Pas seulement des femmes, mais les activités de tout le monde. Tout le monde a besoin de digital.
Évidemment, pas dans le sens discriminatoire, mais dans le sens où les femmes doivent de plus en plus s'impliquer avec ces outils-là, contrairement à ce qu'on voit où on voit plus les hommes utiliser. Il y a ce stéréotype qui se crée en faisant croire que le digital, c'est plus pour les hommes, alors que les femmes peuvent également l'utiliser.
Heureusement que les femmes ont compris ça rapidement.
Voilà. Bah, finalement, les femmes comprennent maintenant tout rapidement, donc du coup...
Parce qu'on ne nous cache plus les informations.
Ah, ben oui. Et en sachant évidemment, lorsque vous avez piloté votre mutuelle de santé pendant cette période de Covid-19, vous avez également contribué quand même un tout petit peu à lutter contre le Covid.
Oui, on a
contribué.
À répondre
à des problèmes par rapport liés au Covid.
Voilà. Exactement, parce qu'on a, pendant le confinement, créé le consortium de solidarité avec justement Afia Mama et la fondation Cybèle Kamba. Mmh. Et on a recoupé...
Solidarité, c'est-à-dire
consortium de solidarité Covid-19.
D'accord.
C'était, on repense à l'appel à solidarité du chef de l'État.
D'accord.
Et on a réuni autour de nous 27 ONG et sociétés. Donc, on était en train de faire la recolte des vivres et non-vivres. On a même été accompagné par ONU Femmes et par, enfin, il y avait beaucoup de donateurs. Hein. On a fait un plaidoyer au ministère de la Santé qui nous a permis, nous, avec les instruments didactique de pouvoir faire la campagne de vulgarisation anti-Covid. Et on a atteint plus de 10 800 familles en termes de vivre et non-vivre à Kinshasa, à Goma et à Bukavu.
Ah, génial.
Donc oui, on ne s'est pas arrêté de parler de la mutuelle. on a aussi parlé de la pandémie.
Oui.
Et aussi, on a répondu aux besoins de ces personnes qui se trouvaient en difficulté pendant la période du confinement.
C'est la fin de ce 100% jeunes. Nous poursuivions notre thème sur les actions et activités des jeunes pour le mois de mars. Merci à Emmanuel Elamegi, Hervé Voka qui ont participé à la production de ce magazine supervisé par Thérèse Kankou, alors que la prise de son était assurée par Paul Badenyama. Je suis Baya Chamala. Fixons-nous rendez-vous pour la semaine prochaine. Même heure, même radio. Ciao, ciao, bye bye.